bonsoir.
Nous vous proposons une série de 4 émissions réalisées à partir d'un essai radiophonique diffusé en une fois dans une première version en émission spéciale le 19 janvier 2010. Les maquis de la vallée d'Azergues. Ces maquis, implantés dans la vallée d'Azergues, ont existé entre mars 1943 et août 1944. Ces maquis, deux parmi tant d'autres en France durant la guerre 1939-1945, présentent cependant la particularité d'être souvent « oubliés » entre guillemets, dans les hommages aux maquis et dans la littérature, autant que dans les médias. C'est aussi, mais pas seulement pour cette raison, que nous avons choisi de nous y intéresser et de leur donner un écho radiophonique sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Une autre raison en est bien évidemment leur caractère lyonnais et rhône-alpin. D'ailleurs, le premier de ces maquis a donné son nom, Vendémiaire, à notre nouvelle émission. Une autre raison encore est la spécificité de ces maquis, et en particulier celle du deuxième, le camp d'Estieux, qui mérite ne serait-ce qu'à ce titre qu'on s'intéresse à lui. Enfin, nous avons eu d'une part la chance d'avoir encore quelques acteurs de ces maquis toujours présents parmi nous et qui ont bien voulu nous apporter leur témoignage, ce dont nous les remercions chaleureusement. Et nous avons d'autre part aussi quelques témoignages oraux de maquisards aujourd'hui disparus, dont au moins un a pu être récupéré grâce à l'obligeance de la NACRE, l'Association nationale des anciens combattants résistants, et aux moyens techniques de Radio Canu. Nous nous en tiendrons donc pour cette série d'émissions essentiellement d'une part au maquis Vendémiaire, qui a existé de mars 1943 au 11 décembre 1943. Il a été fondé par Antoine Fonlupt, Jean Aligne et Georges Thévenon, tous trois originaires du quartier des États-Unis. Le 18 mars 1944, Antoine Fonlupt sera abattu par la milice à l'angle de la place des Terreaux, côté rue du Puy-Gaillot. Une plaque rappelle son souvenir à cet endroit. Et d'autre part, au maquis Camp d'Estieux, qui a existé du 12 octobre 1943 à septembre 1944. Ce maquis fut ainsi dénommé par les maquisards en hommage à leur camarade André d'Estieux. André d'Estieux, caladois, était résistant FTPF très actif à Lyon, où il faisait équipe avec Paul Gachet, sous le commandement de Léon, Marcel Chadbeck. Ils ont été arrêtés en février 1943 et livrés par la justice française à un tribunal militaire allemand qui les condamne à mort. Ils ont été fusillés à Dijon le 27 mai 1943. Pour conter l'histoire de ce maquis, nous laisserons le plus souvent possible la place aux témoignages oraux des uns et des autres. C'est bien là la spécificité et l'originalité de ces émissions. Mais nous nous autoriserons aussi, pour rendre plus facilement compréhensibles certains propos, des insertions de précisions diverses et de mises en perspective. Vous entendrez au fil de cette première émission par ordre d'entrée en onde les voix des maquisards suivants. René Carrier, alias Napoléon, chef du 3e groupe, Maurice Pierre, membre du maquis Vendémiaire, Roger Chavanet, alias Guérin, fondateur et dirigeant du maquis du camp d'Estieux jusqu'au 22 avril 1944, Louis Rossi, alias Vernet, un des tout premiers venus à ce maquis et qui en sera jusqu'à la fin, Hubert Reverchon, alias Bobby, Marcel Chadbeck, alias commandant Caron, adjoint au chef du maquis, responsable du premier groupe et dirigeant du maquis à partir du 22 avril 1944. Bonne écoute.
Amis morts en mai, et pour eux seuls désormais, que mes rimes aient le charme, qu'ont les larmes sur les âmes. Et que pour tous les vivants qui changent avec le vent, si aiguisent au nom des morts, larmes blanches du remords. mariés, mots meurtris, rimes où le crime crie. Elles font au fond du drame le double bruit d'eau des rames. Banal comme la pluie, comme une vitre qui luit, comme un miroir au passage, la fleur qui meurt au corsage. L'enfant qui joue au cerceau, la lune dans le ruisseau, le vétiver dans l'armoire, un parfum dans la mémoire. Rime où je sens la rouge chaleur du sang. Rappelez-vous que nous sommes féroces comme des hommes. Et quand notre cœur faiblit, réveillez-nous de l'oubli. Rallumez la lampe éteinte que les vers vides teintent. Chante toujours parmi les morts en mai, mes amis.
Un maquis dans la vallée d'Azergues avait-il sa raison d'être? Il faut répondre assurément.
René Carrier.
Cette vallée est située à quelques dizaines de kilomètres de Lyon. Elle est desservie par une voie de chemin de fer d'importance moyenne, mais par laquelle l'ennemi va faire transiter marchandises, matériel et armement. Il est compréhensible que ce maquis ne pouvait s'installer dans la quiétude, alors qu'à Lyon, l'ennemi a une garnison importante dont les membres sillonnent les routes. Dès qu'il y aura action, il y aura répression. C'est le 13 mars 1943 que trois jeunes patriotes, Jean Aligne, Antoine Fonlupte et Joseph Thévenot, créent un maquis en liaison avec le mouvement des FFI-FTPF, lequel s'implantera sur le territoire de la commune de Clavaisol. C'est le premier maquis qui existera dans le département du Rhône. Il portera le nom de Vendémiaire. L'armement est alors inexistant, mais en mai, ces maquisards réussissent à se procurer des armes et des explosifs, et bientôt, ils passeront à l'action contre les lignes ferroviaires, à la cadence d'une opération par semaine. De bons résultats seront obtenus, avec notamment la destruction d'un train de blindés à la Clayette.
Le seul participant direct du maquis Vendémiaire que nous avons pu rencontrer est Maurice Pierre. Il a bien voulu, extrait de l'ensemble de son aventure de résistant, nous faire part de ses souvenirs concernant ce maquis où il arriva en ayant déserté les chantiers de jeunesse.
Donc vous quittez les chantiers de jeunesse sans regret. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc, une fois revenu à Montbéliard pour retrouver la famille
là. Non. À ce moment-là, je vais au maquis.
Tout de suite?
Oui.
Et vous vous souvenez plus comment vous avez trouvé la filière du maquis?
Non. Tout le monde... C'est pour ça que c'était pas... Tout le monde le savait. On m'a dit, tu prends le train et tu descends à Saint-Nizier-d'Azergues. Automatiquement, les gars sont là qui vous attendent. Tu viens au maquis, allez, viens. Même ma mère qui est venue me voir un dimanche.
Ah bah oui.
Oui, ben moi, c'était au mois d'août.
Oui, c'était au mois d'août.
Donc, il y avait même un docteur juif qui était là, à ce moment-là. Qui nous a passé la visite à tous.
Alors, ce maquis, il y avait Jean Aligne.
Oui.
Il l'a fondé, vous l'avez connu, cet homme-là?
Non, mais je l'ai connu là.
Là, oui. Quel souvenir vous avez de lui?
Je suis arrivé vers le Jean, je lui ai dit, pétain, fais donc ta personne à la France. Moi, je l'ai fait à mon parti, moi, je suis pas venu pour me les glander, hein. Je suis venu pour la bagarre. Donc, je n'ai pas resté longtemps, mon nid d'aigle. Après, on est parti dans une autre ferme, le groupe de récupération. J'avais beaucoup, avec moi, des gars de Vienne, dans l'Isère. Mmh. qui était au maquis avec moi dans cette maison-là. Et un qui était, c'était un garçon boulanger, mais qui était de du nord, là, au-dessus. Il chantait bien, il nous chantait des chansons le soir, pour pas qu'on trouve le temps long. Il chantait très bien. Mais moi, je descendais déjà faire des coups durs à Lyon, et je vais vous en dire une bonne. Quand j'avais repéré ce qu'on devait faire, suivant ce que j'avais besoin de gars, je téléphonais au marchand de vin que j'ai jamais connu, au marchand de vin de la Mur-sur-Azergue, et je lui disais, dites au grand Jeannot qu'il m'envoie demain 2 tonneaux, 3 tonneaux, ça voulait dire 2 bonhommes, 3 bonhommes.
Parce que vous étiez au maquis, mais vous descendiez à Lyon.
Ah ben oui.
Pour faire des coups.
Ah ben oui. Et nous, on a toujours été, que ce soit les attaques de mairie, les machins comme ça, moi j'ai participé à tous ces coups-là, jusqu'à ce qu'on soit attaqué par les Allemands. Mmh. Alors quand on était attaqué par les Allemands, bon, on avait perdu. On avait perdu la notion de... Si, je ne veux pas vous dire que... Je vous l'ai dit, moi. On était attaqué le jeudi. Le dimanche, je suis revenu faire un match de football avec l'équipe de Saint-Nizier d'Azergues. Mais après, je suis redescendu et c'est là que je suis venu à Mandeur. Je ne savais pas où aller. Donc, j'étais revenu à Mandeur dans de la famille, chez un cousin, jusqu'à ce que ma grand-mère me dise que les gendarmes me recherchaient.
Sur le maquis, je crois savoir qu'en septembre 1943, il y a 5 évadés russes qui ont rejoint le maquis Vendémiaire. Ça, vous les avez croisés,
ces gens-là ? Les russes ?
Oui.
Oui.
Ouais,
oui.
Vous avez vu ces gens-là ?
C'est des costauds, ceux-là.
Ah bon ? Il y a 5, puis
ce maquis... Ouais. Il y avait des Espagnols. Il y en avait un, d'ailleurs, qui a été arrêté, si j'ai bonne mémoire, quand le pauvre Tatan a eu son coup dur.
Ici, une précision que nous a apportée Maurice Pierre. Le coup dur de Tatan, c'est quand il a tué accidentellement un très jeune garçon de 13-14 ans, fils ou enfant à la charge du maire de la mairie attaqué lors d'une récupération de tickets, la mitraillette partant presque seule. Tatan est sorti très affecté de cet accident, changé. Il cherchait la mort, m'a dit Maurice Pierre.
On l'appelait Franco, il s'est fait arrêter.
C'était pas gentil, l'appelait Franco.
Non, on l'appelait Franco parce que c'était un Espagnol. Je vous dis même qu'il y en a un qui est enterré là-haut. Il avait bu, il voulait violer les filles du café sur la place de Saint-Dizier. On l'a passé au tribunal, il a essayé de se sauver. C'est les Espagnols qui l'ont récupéré.
Oui, il y avait certaines disciplines dans les maquis. Hein.
Obligatoire.
Et ce maquis qui était relativement nombreux, 135 maquisards, je crois, à la fin,
oui.
Relativement statique, et on a dit que c'était un peu ça qui avait été la cause de sa perte. Quoi. C'est-à-dire que vous déplaciez pas assez souvent et en grand groupe.
Et tout le monde le savait.
Et tout le monde le savait.
Tout le monde savait que le maquis était là, et que le soir on allait. Moi, quand j'étais au Nid d'Aigle, là, on allait écouter la radio chez Dudu, la radio longue chez Dudu. Tout le monde le savait. La preuve, c'est que les deux gars qui ont dénoncé le bazar. C'était, comment je veux dire, c'était pas assez serré, puis ils pouvaient pas serrer. Il fallait bien qu'ils acceptent. Ils avaient bien accepté les gars. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde, surtout en 44, il y a eu beaucoup de monde dans les maquis. Pourquoi ? Parce que les Allemands voulaient les prendre pour travailler. Non, mais ils venaient pas au maquis pour faire des coups durs. C'est là toute la différence avec nous. Nous, on était là pour combattre les Allemands. Eux étaient là pour ne pas aller en Allemagne. Dans les maquis FFI, ils étaient bien nourris, ils faisaient du mandi-mandat.
L'oreille aux tendres chansons que mains soupirant composaient pour elle et leur murmuraient sous leur balcon.
L'ennemi campe sur monts et plaines, souillant le pays. Tous nos soldats sont chargés de chaînes, notre honneur a fui. Les temps ne sont plus où dans l'allégresse de jolies femmes aux longs cheveux. Aux soldats vainqueurs offraient leur jeunesse, donnaient leur cœur aux horizons bleus. Le gris sinistre partout se mêle aux croix gammées noires. Et nos drapeaux gisent pêle-mêle, cachés, perdus d'espoir. Les temps ne sont plus à gémir sans cesse sur les gloires du beau temps de jadis. La lutte s'offre à toi, brave jeunesse, reprends les armes pour le pays. Des bataillons au maquis se forment, garçon, n'hésite pas. Le corps de nouveau partout résonne, garçon, presse le pas. Les temps sont venus de venger la terre souillée par les soldats allemands. Un seul cri aux armes, la France espère, il faut se battre, la France attend. Unis dans la lutte et l'espérance de vaincre ou de mourir, donnons au pays sa délivrance, forgeons son avenir.
Claudius Carton vivait avec sa famille au Toranchin, une ferme auberge. Il était un farouche patriote depuis bien avant la guerre, et dès le début de celle-ci, il œuvrait pour la résistance dans un réseau gaulliste. Quand les maquisards du camp d'Estieux arrivèrent chez lui en décembre 1943, naturellement, il les accueillit. Le 17 février 1944 a été pour la famille Carton la journée la plus longue et la plus dramatique de leur vie. Claudius, lui, connut ensuite la déportation. Jeanne Carton, épouse Roche, et Fernand Carton, son frère, nous parle de ce qu'ils ont vécu ce jour-là.
Mais ce camp grandit en effectif. En août, il dépassera 100 membres et devient donc difficile à gérer. Et le 11 décembre, ses cantonnements seront encerclés par les Allemands. Mais si quelques erreurs de gestion ont été commises, les dirigeants du camp ont eu la sagesse de créer des liens étroits avec la population et d'établir des contacts amicaux avec les gendarmes de la Mure, et ils seront prévenus de cette attaque à laquelle ils échapperont. Mais les effectifs du camp seront à ce moment-là dispersés. Certains de ses membres rejoindront les groupes de ville à Lyon ou d'autres unités.
Après cette présentation du camp Vendémiaire, nous vous proposons le témoignage de Roger Chavanet, qui en 1974, dans un entretien à La Nacre, décrivait comment il en était venu à fonder le maquis du camp d'Estieux.
Au début d'octobre, je me suis rendu compte par certains recoupements, par pas mal de petites choses, que nous commencions à être repérés. En ce qui me concerne, j'étais parfaitement inconnu. N'habitant pas la région où j'habitais, je me suis marié, j'habitais à Saint-Rambert-l'Île-Barbe. J'étais complètement inconnu à Saint-Rambert-l'Île-Barbe. J'ai donc pu passer inaperçu. Mais malgré tout, la police commençait à se préoccuper d'un certain Lombard, c'était à ce moment-là mon nom, et par voie de conséquence de celle de mes camarades. Aussi, j'ai pensé qu'il était bon de faire peut-être partir dans un maquis de la ZERC qui existait déjà à ce moment-là, ceux qui me paraissaient les plus touchés par ces mesures de surveillance, en l'occurrence le groupe de Vosamblin, avec les camarades Béville Bertrand, Pierre Aublanc, Barbier et ceux qui composaient ce groupe. Dans cet ordre d'idée, j'ai pris contact avec le camp Vendémiaire qui existait à ce moment-là sur le territoire de la commune de Saint-Nizier-d'Azergues, et nous avons décidé de faire partir Émile Bertrand et André Barbier déjà, afin de leur procurer les renseignements pour les faire partir à cet endroit. nous étions donné rendez-vous, grande rue de Saint-Clair, vers le pont Poincaré. J'arrivais avec un autre camarade de la direction de Calvire, Barbier et Émile Bertrand venant de Vaux-en-Velin, arrivaient par le pont de la Bourque, par la grande rue de Saint-Clair. Nous nous sommes joints à peu près vers une petite place, et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que nous étions repérés par des agents, des policiers en civil, que déjà nous avions vus en bas de la montée des soldats. Alors, ils se sont amenés pour nous mettre nos papiers, et ils ont voulu nous fouiller. Or, il y avait dans un sac tyrolien, que Émile Bertrand devait emmener, des cartouches de plastique, du cordon détonnant, des armes, tout un tas de choses, bien sûr, qui n'étaient pas nécessaires de leur faire voir. Il y a donc eu bagarre, nous nous sommes servis de nos armes pour nous défendre, et nous avons réussi à disparaître après en avoir laissé deux sur le carreau. Ça s'est passé le 6 octobre 1943. Le surlendemain, notre camarade Émile Bertrand se faisait arrêter non loin du domicile de sa sœur, à Vénissieux, Madame Didier, je crois. Ce domicile était surveillé, et il est venu se faire prendre là. J'avais donc rendez-vous avec lui pour l'envoyer le lendemain de son arrestation, c'est-à-dire il a dû se faire arrêter, je crois, le 7 ou le 8 octobre, et il devait partir le 8 ou le 9 octobre, enfin, un jour comme ça. Et quand je me suis présenté à la gare de Vaise, où je devais le prendre en charge et le monter, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'Émile Bertrand. C'est par le journal que j'ai appris son arrestation. Du reste, le journal qui est apparu sous le titre « Un des bandits qui ont tué les agents un tel et un tel, le grand rue de Saint-Clair est arrêté, etc. » J'ai jugé bon à ce moment-là de ne pas rester sur place et également de disparaître. Mais les liaisons, c'était ce qu'elles étaient. Et on ne les avait pas toujours sous la main. Et que faire? Je ne pouvais pas rester chez moi. J'avais peur d'être repéré. J'ai donc été obligé de prendre une décision. Et je suis parti dans la Zergue. Je suis parti dans la Zergue en bicyclette. Et j'ai atterri sur renseignement. Nous avions au cours des mois déjà noué des relations un peu de partout, et en accord avec un camarade de Villefranche, nous nous sommes retrouvés à Chamelet dans un café qui existe toujours, un hôtel qui existe toujours, qui s'appelle l'hôtel du Bon Accueil, et qui était tenu à ce moment-là par les époux Bessy, qui avaient également un grand-fils. Avec ce gars de Villefranche, que j'avais pris en passant, nous avons discuté de l'implantation d'un maquis dans cette région. Enfin, l'implantation d'un maquis, c'est même un peu trop présomptueux. Simplement d'une cache, d'un endroit pour se cacher, en attendant des jours meilleurs. Et c'est alors que il existait déjà le maquis Vendémiaire, qui était dirigé par Jean Aligne. C'est alors que j'ai pensé à créer à ce moment-là un second maquis. Le maquis de Jean Aligne avait déjà 6 à 8 mois d'existence. Ils avaient fait quelques actions, mais eux aussi commençaient à se faire sérieusement repérer du fait qu'ils n'avaient jamais, presque jamais bougé de cette partie où ils étaient. Je dois dire justement à ce sujet qu'au mois de juin 1943, j'avais été envoyé par le commandement militaire interrégional en faire une inspection de ce maquis, et il y avait beaucoup de choses qui laissaient à désirer. Il avait fallu y mettre un peu d'ordre. Et c'était pas encore terrible lorsque, en octobre 1943, je me suis retrouvé dans la vallée d'Azergue. Nous avons trouvé, avec le concours du fils des aubergistes, une maison située sur le territoire de la commune de Dieppe, une maison abandonnée, au sommet d'une petite colline surplombant la route. Et c'est là qu'en quelque sorte qu'est né le maquis de l'Azergue. Alors, il est né, ce maquis de l'Azergue, du fait de l'obligation qui m'a été faite de partir, de me mettre un peu au vert, mais je n'ai pas voulu rester, bien sûr, dans la nature. Il fallait agir, il fallait faire vite, le temps pressait, le STO avait déjà fait des ravages parmi la population paysanne, la mentalité des paysans, la plupart des personnes qui habitaient ces régions, avait considérablement changé, car ce n'était plus la période bénéfique où l'on vendait très cher des produits aux pauvres gens de la ville. Ce n'était plus la période bénéfique où le maréchal et ses séides lyonnais disaient « Lorsque les ouvriers viendront tirer votre sonnette, renvoyez-leur à leurs 40 heures et à leurs congés payés. » Ce n'était plus cette période-là, car eux-mêmes étaient touchés. Et beaucoup, et ils s'en rendaient compte. les fils, leurs fils à eux étaient touchés. En pleine période de vendange, en 1943, il y avait, par exemple, dans le Bas-Beaujolais, où j'étais à ce moment-là, énormément de jeunes qui devaient partir. Et ça n'arrangeait pas les parents, bien sûr, et ça n'arrangeait pas non plus les jeunes. Il y avait donc là quelque chose à exploiter, il fallait le faire. D'un côté, en même temps, notre sécurité était assurée du fait que les gens devenaient nos complices pour la bonne raison qu'eux-mêmes étaient dans le coup. Nous avons donc, après avoir trouvé cet endroit où nous pouvions constituer un maquis, je suis revenu à Lyon, j'ai repris contact, j'ai réussi à reprendre contact avec des camarades de l'interrégion, et il a été décidé que le maquis de la Zergue était créé et que nous allions envoyer des gars désireux d'échapper au STO d'une part et désireux de se battre d'autre part, et puis des gars ici pour qui la sécurité à Lyon était compromise du fait des RAF, du fait de leur incessante activité, et qui tôt ou tard auraient fini par tomber entre les mains de la police, car bien sûr c'était quelque chose de particulier que la guérilla urbaine. C'est quelque chose de particulier, et c'était quelque chose de particulier que la guérilla urbaine, quand il s'agit de dire on part de chez soi et on n'est pas sûr d'y revenir, car là l'ennemi était partout, au coin de toutes les rues, dans toutes les encoignures de portes, dans tous les cafés où vous pouviez rentrer pour vous rafraîchir, les mouchards de la police abondaient, il y avait des centaines et des milliers à ce moment-là d'indicateurs et de flics qui étaient en chasse du matin au soir, et qui appréhendaient toute personne leur paraissant suspecte, et tout jeune a priori était suspect puisqu'il devait être au travail ou en Allemagne, donc la sécurité des gars était menacée. Il y avait donc nécessité de faire autre chose. Et également de développer cette ambiance de lutte qui ne pouvait pas s'exprimer que par la guérilla urbaine. Il fallait trouver autre chose. Les maquis, donc, dont on parlait déjà, bien sûr, on parlait des maquis du Vercors, on parlait des maquis dans les environs de Grenoble, mais à 30-40 km de Lyon, à part le maquis de mon camarade Jean Aligne, qui était créé depuis le mois de mars 1943, qui groupait donc des gars, mais surtout des gars qui ne voulaient pas partir en Allemagne, à part donc cet embryon de maquis, il n'y avait à ce moment-là aucun maquis dans la région lyonnaise. À 30 km ou 40 km de Lyon, j'aurais posé cette question à n'importe quel officier supérieur de l'armée d'active, il m'aurait traité de fou ou de provocateur, certainement, il m'aurait renvoyé dans le Vercors. Or, nous avons fait ce maquis dans la vallée d'Azergues, nous l'avons fait donc aux portes de Lyon, à cheval sur, quelque sorte, sur trois grandes voies de communication, sur trois grandes voies ferrées de communication, et sur trois routes nationales très importantes également. Je veux dire que, quand je dis à cheval, je veux dire que nous pouvions, de cet endroit, contrôler facilement ces trois grandes routes et ces trois grandes voies ferrées, la ligne Lyon-Bordeaux-Partarare, la ligne Lyon-Parelmonial par la Mure sur Azergues, les Écharmeaux, etc., et puis l'Allier, ça allait plus loin, et la ligne Lyon-Villefranche, puisque après tout, nous n'en étions pas tellement loin pour descendre sur la ligne de Villefranche et sur la nationale 6. Pardon. L'endroit était donc bien choisi.
Roger Chavanet exerçait des responsabilités dans les groupes de ville de Lyon et dépendait de l'autorité de Marcel Clouet, lequel était un grand mutilé de la drôle de guerre, qui allait être massacré plus tard. Il approuva la décision prise par Roger Chavanet de créer un maquis dans la vallée d'Azergues. Il ne s'agissait pas, en effet, de regrouper des maquisards dans de lointaines montagnes, loin des garnisons et voies de communication de l'ennemi, mais bien plutôt d'implanter de petits groupes de maquisards mobiles, capables de se rassembler pour effectuer une action déterminée et de se disséminer après coup dans la nature. C'est le 12 octobre 1943 que Guérin, Roger Chavanet, crée un maquis affilié au mouvement FTPF, qui sera donc le second maquis du département du Rhône. Il portera le nom d'un héros de la résistance fusillé le 27 mai 1943 à Dijon, André Destieux. Guérin s'installe sur le territoire de la commune de Chamelay avec quatre patriotes. Petit à petit, les effectifs du camp s'accroîtront sans jamais dépasser avant le mois d'avril 40 hommes. Ceci pour des raisons d'efficacité et de sécurité. Le premier souci de Guérin est naturellement d'armer ses camarades. 3 fusils, 400 cartouches, quelques revolvers et une mitraillette sont récupérés. C'est avec cet armement rudimentaire que ces patriotes vont entreprendre une action permanente autant que positive.
Et Reverchon, là, c'est un collègue qui est venu de la Hesse, qui a fait le défilé à Yonnax-Ouni.
Ah oui,
lui. Ils ont traversé Lyon, ils étaient en tenue de chantier de jeunesse.
Louis Rossi, puis Hubert Reverchon.
Ce défilé d'Oyonnax, alors, comment ça s'est passé, ça?
Eh bien, on est arrivé pour aller à Oyonnax d'Échallons, en haut, Échallons. Et on est venu là, on s'est regroupé pour faire le défilé d'Oyonnax, et nos responsables avaient fait courir le bruit qu'il allait avoir un truc, mais c'était un entoir, ils avaient dit. Vous comprenez? Alors, les Allemands avaient intercepté le truc, ça se passerait en Antoine et tout. Oh là, il n'y a pas eu de problème, on a fait le défilé et tout le bazar. Et après, le défilé est terminé, pour rejoindre notre base, vous savez, à automne, tout le bazar, au plateau d'automne, on passait par la Cluse. Qu'est-ce qu'on voit, la Cluse? Des Allemands. Les Allemands, quand ils ont vu les camions qui passaient tout, on les regardait tout. Ils n'ont pas fait un geste, personne n'a fait un geste, on est passé comme ça. Ils ont tellement été surpris parce qu'ils comprenaient quand ils avaient les renseignements sur
eux. Ils vous ont pas couru après.
Oh non, oh ben non, non.
Et la population, quelle réaction il y en a, ils avaient peur, les gens, non, de vous voir, ou plutôt rassurés?
Oh oui. Question d'être assuré, pas tant que ça, hein.
Et vous l'avez retrouvé dans la Zergue, lui?
Mais nous arrivons dans la Zergue.
Mais oui. C'était à quelle date, alors?
Attendez, ça doit être...
Enfin, à peu près, hein.
Oui, ça doit être le 11 novembre,
ce soir, décembre... Après le 11 novembre.
Non, mais ça doit, mais je vous dis bien, c'était au mois après le 11 novembre, hein. Fin novembre. D'ailleurs,
c'est 8 après le 11 novembre.
Oui, j'étais 5. Il y avait lui, il y avait Noël, il y avait. D'ailleurs, ils sont en photo.
Je vous propose maintenant d'entendre Marcel Schadbeck nous décrire comment, après avoir dû disparaître de Lyon où il était recherché pour ses actions avec les groupes Ville des FTPF, il en est venu à rejoindre le maquis du camp des Stieux.
Quelques temps après, 6 mois après, je suis redescendu, et comme ma sécurité ne tenait qu'à un Mauser que j'avais dans la ceinture, on m'a dit, tu vas pas rester ici à Lyon, c'est trop dangereux pour toi, on va t'envoyer dans un maquis en formation, là, pas loin d'ici, à Chamelet. C'est ainsi que j'ai débarqué dans la Zerg, où mes connaissances militaires déjà dans la guerre de partisans m'ont valu d'être nommé tout de suite adjoint au chef militaire Roger Chavanet. Et ça a été la lutte de partisans, là. Alors, contrairement au maquis d'hier, Vercors, Montboucher, maquis de l'Ain, grosse formation concentrée là, nous, notre tactique, c'était des petits groupes qui se déplaçaient presque constamment, mais qui harcelaient les Allemands alors que les autres attendaient un jour J où on leur donnerait l'ordre de passer à l'attaque. Nous, on passait à l'attaque tout de suite. C'était les attaques contre les Allemands, c'était les attaques notamment contre les voies ferrées. Paralyser le réseau ferré, c'était paralyser l'armée allemande. Alors bien sûr, ça nous a valu d'avoir les Allemands sur les reins, d'avoir la milice sur les reins, d'avoir les GMR sur les reins, et la Gestapo qui sillonnait dans tous les villages de l'Allemagne. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais je peux vous dire qu'on a passé un hiver dans des conditions terriblement difficiles, avec peu de matériel. C'est quelque chose qui nous a marqué. Nous n'avions pas une couverture par homme. On couchait par terre, même le sol, avec 4 couvertures pour 7 ou 8 hommes. Alors ce que l'on faisait, je prenais une sentinelle et on faisait coucher les hommes les uns contre les autres, flanc contre flanc, et on étendait les quelques couvertures qu'on avait dessus. Et on trouvait moyen de dormir quand même. C'était la jeunesse qui nous valait ça.
Et comment vous avez fait pour vous retrouver dans la Zergue après tout ça? Parce que c'était pas facile d'entrer dans le réseau qui permettait d'arriver.
Mais c'est parce que c'est le Doré qui est venu.
Ah, c'est avec lui que vous avez eu contact.
Voilà.
Hubert Reverchon.
Oui, on a contacté le Doré, le truc là, voilà.
Oui, mais pourquoi?
Pour rejoindre le FTPF.
Mais comment vous saviez qu'il y avait un marquis de la Zergue?
Mais parce que le Doré nous l'a dit.
Lui, il y était.
Il y était, lui.
Et puis il est allé là-bas dans l'Inde.
Oui. Quand on est arrivé, nous, au Guéry, puis après, à la Johanna. Alors là, il y avait Chavanet. Alors donc, j'en reviens là-bas à la Johanna, quand je suis arrivé. Il y avait donc là, à ce moment, Chavanet, et puis il y avait
Pardon, vous étiez dans les premiers, finalement, du maquis. Ah, vous étiez dans les 5-6 premiers qui l'ont constitué.
Oui.
Il faut dire que j'ai été envoyé par accident dans ce camp.
Marcel Chadbeck.
Ce camp était en formation avec mon camarade Chavanet et c'était un camp tout à fait nouveau qui s'installait dans une région très près de Lyon, très près de Villefranche, très près de Tarare. Ça pouvait paraître un peu insensé. Et j'ai été désigné tout de suite comme adjoint chef militaire et par la suite, c'est moi qui ai succédé à Chavanet lors de sa blessure. Donc, qui a continué la vie de ce camp. Dès les débuts, nous n'avions pratiquement aucune arme, si ce n'est 7 fusils anglais, 2 ou 3 grenades et quelques pétoirs, quelques revolvers très anciens. C'est tout ce que nous avions comme armement. Et nous avons commencé nos actions dans la vallée d'Azergue, parce qu'il s'agissait pour nous, c'était notre objectif stratégique, de neutraliser la vallée d'Azergue, la route nationale et la voie ferrée Givors par El Monial, qui était une voie stratégique pour les Allemands. Alors, nous avons commencé, comme nous n'avions pas d'autres moyens, pas d'explosifs, en déboulonnant les rails. Et nous avons fait dérailler les trains.
Et quand vous partiez au maquis, c'était dans l'idée de vous battre?
Oui, d'accord. Et là, quand je suis parti au maquis, j'ai été réceptionné à Saint-Nizier-d'Azergue. C'était le campement des mers.
Louis Rossi.
Et là, je suis resté quelques jours, vous savez, vous avez tout. Et là, non. Et là, ils étaient trop nombreux, j'ai demandé à partir vers le FDP, je voulais rejoindre Barbier.
Qui était dans le camp des Thieux.
Camp des Thieux. Alors on a arrivé au camp des Thieux.
Et c'était quelle date?
C'était au mois d'octobre. Le camp des Thieux, vers 20, 22. Ouais. Et moi quand j'y suis allé, c'était 4-5. Hein. En plus, il y avait Chavanet, Guérin, comment on dit Chavanet, et Maxoux, Alex, et Barbier, et puis un autre, 5, ils étaient. Et moi je suis venu, c'était le 6e.
Chadbeck était déjà là?
Nous a rejoint quelques jours après, Chadbeck.
Donc votre arrivée à Vendémiaire, c'était en octobre 43.
Oui. Puis il a été dissous au mois de décembre, quand Vendémiaire, qu'on a récupéré des armes. Parce qu'on n'avait presque pas d'armes, hein, nous. Et alors, on a commencé les actions pour aller dérailler des trains.
C'était... Vous étiez très occupé ou... Vous avez beaucoup de temps libre?
On avait tout le temps libre, vous savez. Alors, on s'occupait, on coupait du bois, mais on n'essayait pas de se faire boire. Vous savez, à l'époque, là, même avec la population, on était isolés. Alors, on ne pouvait pas faire des courses à pied ou n'importe quoi, parce qu'on était isolés. Hein.
Toujours. Mais vous changiez souvent de...
On a changé souvent de camp. Là, on est resté une quinzaine de jours. Après, il y a eu le truc de Vendémiaire. Ils ont été attaqués. Nous, on a changé, on était à la Johanna. Et à la Johanna, il y avait une personne, c'était une infirmière, Madame Vincent avec sa fille, sa petite fille, Monique. Et là, on lui... lui couper du bois et tout, vous savez. Et entre-temps, on allait faire sauter les trains. Et là, on a été repérés. Et alors, à 1h du matin, nous sommes partis dans les bois de Brou. On avait un camarade qui avait de la fièvre, Bertocou, Cavalghini, et on, avec les collègues, on l'a porté sur des brancards de Brou. On l'a emmené chez lui, et ses parents habitaient les Trains. Mm-hmm. On l'a posé là. De Brou, on est à une... On descend de la colline, on est remonté du côté de Saint-Cyr, où on a bivouaqué. Et à Saint-Cyr, on a été repéré aussi. On a changé de coin. Et le maire de Chamelet, c'est tout de suite Chamelet, là, les Allemands sont venus. Ils leur ont demandé où c'est qu'il y avait le camp. Lui, il a dit, moi, je suis français. Il a été déporté, d'ailleurs, il est mort.
Et nous avons commencé à nous développer à partir du mois de novembre 1943.
Roger Chavanet.
Nous avions déjà changé de lieu de séjour. Nous nous trouvions encore bien plus enfoncés au cœur de la vallée d'Azergues, plutôt du côté des monts de Tarare même, sur la commune de Saint-Julien, de Saint-Just-d'Avray. Et c'est là vraiment qu'on peut dire que nous avons commencé à acquérir notre formation militaire par l'appoint de beaucoup de camarades qui sont venus de Lyon d'abord, d'autres jeunes du maquis, comme tout à l'heure je vous en parlais, qui étaient dans les maquis de l'AS, qui sont venus nous rejoindre, toute une dizaine au moins sont arrivés. Nous avons créé un service sanitaire et nous avons commencé à faire de l'action. Que fallait-il faire comme action ? Engager une action spectaculaire ou des actions de moindre importance mais plus nombreuses. C'est sur ce deuxième point que nous nous sommes dirigés, c'est-à-dire c'est ce deuxième point que nous avons admis. Nous avons préféré faire des actions moins spectaculaires mais plus nombreuses que de faire des actions spectaculaires qui auraient pu attirer une répression violente contre laquelle nous n'aurions rien pu faire, vu la bodicité de nos armes et de nos effectifs, qui aurait pu frapper aussi la population civile, et par voie de conséquence, nous rejeter pour longtemps, si peut-être, dans une nouvelle illégalité, en quelque sorte, nous obliger de dissoudre le maquis et de revenir à Lyon. Nous avons donc commencé, en ce qui nous concerne, une tactique sur les voies ferrées de déraillement, d'interruption de circulation des trains. C'était notre objectif numéro un. Car nous ne pouvions pas, à ce moment-là, avec les armes dont nous disposions, aller se poster sur les routes et attaquer les convois allemands. C'était de l'utopie. Ce qui était possible, ce qui aurait été possible à ce moment-là dans le Vercors, dans des endroits plus reculés, dans cette agglomération de l'Azergues, on peut dire, puisque les villages se touchent, hein, il eût été impossible de le faire avec une chance de succès. Nous aurions pu réussir une fois, et puis après, quel aurait été le résultat ? Zéro. Pour quelques soldats allemands qui auraient été tués, hein, notre maquis aurait subi des pertes terribles et aurait été obligé de se disperser. Nous avons donc préféré faire une action continue. Et nous avons porté principalement celle-ci sur la voie ferrée, bien sûr, qui était la plus proche de nous, c'est-à-dire la voie ferrée de Paray-le-Monial, passant par la Mur, les Écharmeaux, que nous avons détruite... au moins, en l'espace de 2 ou 3 mois, une quinzaine de fois. On peut dire que pratiquement, depuis le mois de novembre-décembre 1943, jusqu'au mois de juillet 1944, date à laquelle la vallée était considérée comme libérée, on peut dire que les trains n'ont presque jamais roulé d'une façon régulière. Il ne se passait pas 2 semaines sans qu'il y ait une action de notre part sur cette portion de voie, ceci entre Châtillon d'Azergues et La Clète. Le nombre de matériel détruit est impressionnant, locomotives, wagons, etc. Des trains entiers de ravitaillement ont déraillé, notamment un train de vin qui partait pour l'Allemagne, qui a déraillé vers la gare de Ternant. Deux trains de marchandises qui se sont télescopés sous le tunnel de Chamelet à la suite d'un déboulonnage de voies. La circulation a été entravée pendant plus de 6 jours, le temps que tout soit sorti. Et j'en passe, car ça s'est produit ainsi pendant tout l'hiver et tout le printemps 1944. Je ne veux pas remonter plus loin, puisque Après, c'était des opérations plus importantes, mais la vallée était déjà à ce moment-là pratiquement libérée. Il y a eu aussi de notre...
Il y avait une occupation dans la vallée?
Non, il n'y avait pas d'occupation proprement dans la vallée. Les Allemands étaient à Villefranche, ils étaient à Lyon. Mais il n'y en avait pas à Chamelet, qui était un petit village, ils ne pouvaient pas mettre des soldats partout. Justement, l'important, c'était de leur créer un climat d'insécurité qui les oblige d'autant plus à se regrouper d'abord dans des centres, hein, et qui leur interdise en quelque sorte de pouvoir circuler librement comme ils l'auraient voulu. Notre tactique était celle-là.
Lorsque nous sommes arrivés à la Johanna, Saint-Just-d'Avray, c'est un de nos stages, qui a été par la suite le stage référent. Nous avons tombé sur Madame Vincent et sa petite fille, Monique Vincent. Et elles ont fait partie de l'imagerie du maquis pendant tout le temps que nous sommes restés jusqu'à la libération. Chaque fois que nous avions un coup dur, nous nous replions sur la Johanna. Et chaque fois que nous avions des blessés, c'était sur la Johanna qu'on les... Je dois dire une chose, c'est que cette Johanna nous a été féconde parce que le docteur Francoz de Saint-Just-d'Avray a été pendant quelques mois et véritablement presque tout le temps un des docteurs féconds du maquis. Grâce à lui, de nombreux de nos camarades ont survécu.
Les premiers contacts établis avec la population, notamment les paysans, sont encourageants. Il sera possible d'obtenir du ravitaillement et des renseignements, mais il faut encore faire preuve d'une vigilance de tous les instants. Il importe de ne jamais rester sur un même lieu, dans le même temps où une partie des effectifs opère, une autre se préoccupe de la recherche d'un nouveau cantonnement, ce qui n'est pas facile, dans le cours de cet hiver particulièrement froid et enneigé, de 1943 à 1944. Destieux compte alors 37 hommes, organisés en trois groupes de combat, maintenant solidement armés de fusils mitrailleurs et d'une mitrailleuse Hotchkiss. Chaque partisan reçoit deux grenades défensives.
Bah, le quotidien, c'était difficile, parce qu'à l'époque, la France manquait déjà de tout, et nous n'avions rien. Alors, par exemple, nous étions dans une région assez montagne moyenne, 600-700 mètres d'altitude, et nous n'avions une couverture pour 3 ou 4 hommes. C'est tout ce que nous avions pour coucher. Et dans nos déménagements fréquents, bien sûr, nous n'avions pas de poêle, de paille, etc. Il fallait coucher à même le sol. C'est vous dire les conditions précaires. Et quant à l'alimentation, eh bien, elle était plutôt frugale.
Tout au long de ces mois d'hiver, nous occupons une dizaine de cantonnements qui nous conduisent de la vallée jusque dans les monts de Tarare. Notre première action contre la voie ferrée aura lieu le 5 décembre. Un train déraille entre Civrieux et Lausanne. 4 wagons sont détruits et le trafic est interrompu pendant 48 heures. Le 18 décembre, une locomotive et une dizaine de wagons sont détruits sur le pont métallique situé entre Châtillon et Lausanne. Le pont est sérieusement endommagé et le trafic interrompu pendant 10 jours. Les coups portés au trafic ferroviaire n'ont évidemment pas laissé l'ennemi indifférent. Il multiplie les patrouilles et la Gestapo pullule dans la vallée. Le camp vendémiaire, qui fut l'un des premiers maquis de France, devait tout apprendre de cette vie clandestine. Il fallait acquérir les aptitudes nécessaires pour gérer une telle formation. Ce maquis est devenu trop nombreux en effectif, 135. Et s'il échappera à l'attaque du 11 décembre, il sera dissous et ses membres répartis dans d'autres unités ou dans les groupes de ville de Lyon. Ce camp a eu le mérite de récupérer avec la complicité du coq enchaîné, auquel avait appartenu Jean Aligne, une quantité d'armes importantes provenant de l'armée qui avait fait retraite et dont allait bénéficier le camp d'Estieux pour la plus grande joie de ses membres. Le 11 décembre, plusieurs centaines d'Allemands appuyés de GMR bloquent le village de Saint-Bonnet-de-Troncy dans l'intention de cerner Vendémiaire. Mais les membres du camp prévenus, parviennent à échapper à l'encerclement. Furieux de leur échec, les Allemands arrêtent plusieurs habitants du village, ainsi qu'un gendarme de la mûre, et incendient la vieille ferme qui abritait le camp. Les otages seront déportés. Les membres du camp d'Estieux, alertés, changent par précaution de cantonnement. Mais le 13 décembre, le camp d'Estieux, repéré à son tour, doit encore faire mouvement. Le 19 décembre, il est à nouveau repéré. L'ennemi cerne la région de Chamelet et ne pourra qu'incendier la ferme du Cocon que le camp venait de quitter. À Chamelet, ils allaient arrêter le maire, M. Sonnery, qui sera déporté et ne reviendra pas. Le 23 décembre, le camp d'Estieux a été victime d'une dénonciation, mais les maquisards ont changé de cantonnement et les 300 GMR conduits par le dénonciateur au lieu dit le Parasoir en sont pour leurs frais.
Comme le cas s'est produit, du reste, pour ce premier maquis dont tout à l'heure je parlais, qui était dirigé par notre camarade Aligne, et qui est attaqué par trois colonnes allemandes, n'a dû son salut qu'au fait qu'un jeune du maquis partait en permission, prenait le premier train à la mûre sur Azerbe, et en descendant la colline, a vu les camions d'Allemands arriver. Mais malgré tout, ça s'est soldé par la dispersion du maquis, qui n'a pas pu se reformer, et par l'arrestation d'une dizaine de paysans du coin qui entouraient ce maquis, et qui ont... Tous étaient déportés, la plupart sont morts du reste, en déportation. Or, ce maquis n'avait jamais fait quelque chose de transcendant, mais ça faisait trop longtemps qu'il était au même point, et bien sûr, il y avait des traites de partout. Un jour ou l'autre, il avait été vendu, et les Allemands étaient venus en expédition.
Évidemment, les Allemands, la Gestapo, les Français, la police française, la milice, tous ces gens-là étaient à la recherche de notre maquis, qui leur portait des coups terribles, et ils voulaient absolument nous détruire. Et ça nous a obligés, en plusieurs fois et très souvent, à déménager, parce que nous n'étions qu'une trentaine, mais à déménager dans des conditions très précaires, quelquefois à une demi-heure près, avant que les troupes allemandes arrivent sur nos lieux. Et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés... dans des voisinages du Parasoir, Péréon, Vaux-en-Beaujolais, et nous avons fait comme ça de multiples séjours un peu partout.
Durant cette période de déplacement incessant, le ravitaillement s'avère impossible et le menu se compose de pain, de sucre et d'un peu de chocolat. La direction du camp décide de se déplacer de quelques dizaines de kilomètres dans les monts de Tarare.
Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Ainsi se termine cette première émission d'une série de quatre consacrée au maquis de la vallée d'Azergues. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. La chanson « Pour mes amis morts en mai », un poème de Louis Aragon, mis en musique et interprété par Hélène Martin. Puis la chanson de maquis « Les temps ne sont plus », interprétée par Rosalie Dubois. Et enfin, un extrait de la complainte du partisan, écrite par Dastier de la Vigerie, alias Bernard, sur une musique de Anna Marly, dans l'interprétation de Dominique Walter. Nous vous donnons rendez-vous pour la future émission qui évoquera la période des trois premiers mois de 1944. Bonsoir. Thank you.
Thank you.